Un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire hebdomadaire sur Radium. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Incontournable, en Bourgogne, les éditions de l'Armançon installées en Côte d'Or voisine fêtent cette année leur 25e anniversaire. Impensable pour nous de ne pas marquer l'événement dans notre rendez-vous culturel. Le créateur des éditions de l'Armançon a accepté, devant notre micro, de nous faire partager sa riche expérience de représentant de commercial aux éditions Gallimard, puis de Noël. Son expérience également d'enseignant à l'école Estienne, avant de venir créer, à Précy-Soutil, en Côte d'Or, sa propre maison d'édition, dont la ligne éditoriale exigeante est la Bourgogne, dans sa richesse et sa diversité, publiant essentiellement des auteurs nés ou vivant en Bourgogne. Un parcours captivant au long duquel notre invité a croisé quelques brillantes figures de notre littérature, il nous en parlera, Albert Cohen, François Nourricier ou le père La Bourgogne, Henri Vincenot, dont il a largement contribué à faire publier La Bille Baude aux éditions de Noël. Notre invité est un homme d'une grande culture, bibliophile, amateur d'opéra et fondateur du gautierisme. Selon Agathe Fallet, il aura sans doute l'occasion de nous expliquer de quoi il retourne. C'était un néologisme forgé par Agathe Fallet, donc, lors des 10 ans de la maison d'édition. Cher Gérard Gautier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci Gérard d'être devant notre micro. Je suis vraiment très 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 heureux de vous accueillir à bord du wagon livre de Radion pour effectivement fêter avec vous, le créateur, avec votre épouse aussi, ne l'oublions pas. Mais vous êtes le maître d'œuvre de cette maison d'édition, un quart de siècle. Gérard, êtes-vous prêt à feuilleter avec nous l'album un peu de votre vie professionnelle, qui n'est pas finie, bien évidemment?
Alors écoutez, elle a quand même déjà pris un grand nombre d'années, donc je ne sais pas combien de temps elle durera encore. Mais en tous les cas, alors je n'ai pas pris le wagon pour venir ici, puisqu'il n'y a plus de train qui relie Précy-Soutil à Avallon, mais qui aurait pu m'emmener jusqu'à vos locaux. Mais en revanche, je suis volontiers partant pour feuilleter cet album souvenir qui commence maintenant, effectivement, à avoir un certain nombre de pages. 25 années aux éditions d'Armançon, 20 ans dans l'édition traditionnelle à Paris et également dans une toute petite maison qui faisait de la revue à Place France Liszt dans Paris. C'est sûr que j'ai vu défiler pas mal de personnalités, pas mal de projets. J'ai vu aussi changer ce métier. Donc ça fait un peu peur presque de se retourner, parce qu'on se dit diable, tant de chemin parcouru, alors qu'on a l'impression qu'on est encore à ses débuts.
Voilà donc un bel anniversaire sur lequel on va revenir. Un quart de siècle donc de passion, d'échanges avec les auteurs, avec les lecteurs de Bourgogne et d'ailleurs. Alors ce qui est amusant, Gérard Gautier, c'est que finalement, vous n'aviez pas dans votre adolescence pensé à travailler dans le monde de l'édition ou du livre, vous vouliez devenir maître d'hôtel.
Absolument. C'est un rêve d'enfant, mais qui n'était pas du tout un rêve fou, c'était une volonté. Je m'étais dit, plus tard, je serai dans l'hôtellerie parce que j'aimais cela. C'était même pas la partie cuisine, c'était pas la gourmandise, c'était l'atmosphère d'une hôtellerie. Et la seule possibilité pour moi, habitant la banlieue parisienne, c'était l'école de la rue Médéric à Paris, qui était l'école hôtelière parisienne. Malheureusement, si je puis dire, ou heureusement, qu'importe, ça dépend comment on prend le problème, j'étais trop jeune pour entrer dans cette école, puisque les stages étaient obligatoires, il fallait avoir à l'époque un minimum de 16 ans. J'en avais 14, je me retrouvais avec mon brevet élémentaire, le BEPC, un brevet d'études primaires, et à la rue Médéric, on m'a dit, vous pouvez rentrer, mais à la condition d'avoir 16 ans, ou bien rentrer un peu plus tard avec le bac. Très sincèrement, je ne me voyais pas aller dans un lycée. Pourquoi ne me poser pas la question? J'ai jamais cherché à savoir. Mais le lycée, c'était quelque chose qui n'était pas dans mon optique, parce que j'avais vraiment l'envie d'aller à cette école. Donc, j'ai décidé de changer de voie, en me disant, on verra bien. J'étais plutôt bon élève. J'étais ce qu'on appellerait maintenant une bête à concours. Les professeurs, j'étais dans la tête de la classe. Et on m'a fait passer plein de concours en me disant, tu peux aller, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Alors, il y avait l'école de Ville d'Avray, il y avait l'école d'Orient, il y avait l'école d'Optique. Aucune. Alors, on visitait, comme encore maintenant, les portes ouvertes des écoles se faisaient déjà à cette époque-là. On visitait les écoles. Et moi, vraiment, quand j'ai vu l'école d'Orient avec les odeurs d'huile et de machines, enfin, vraiment, ça me convenait pas du tout. Et puis, mon professeur de français m'avait dit, tu devrais tenter Estienne. Et là, j'ai visité Estienne, et ça a été un peu une révélation. Alors, pourquoi est-ce que d'un seul coup je suis passé de l'hôtellerie à Estienne? Mais j'ai toujours eu des livres à la maison, j'ai toujours aimé le livre.
Alors, votre papa était quand même dessinateur de métier et travaillait dans une imprimerie?
Absolument. Alors lui, c'était son métier, dessinateur. Il travaillait pour les Soyeux de Lyon. Puis la crise de 1929 a fait que tous ces métiers ont disparu, parce que les ateliers de dessin disparaissaient les uns après les autres. Et mon père, pour gagner sa vie, s'est retrouvé à aller travailler à l'imprimerie de Régère. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans l'imprimerie. Il n'était pas imprimeur du tout de métier. Mais en revanche, c'était un très fin coloriste. Et donc, au fil des années, il est devenu ce qu'on appelait chromiste dans le métier de l'héliogravure, puisque c'était Drégère faisait de l'héliogravure à l'époque.
Vous aviez aussi une libraire.
Alors oui, c'est très drôle, parce qu'aucun de nous n'était parti pour faire cela. On est dans notre famille, mon père, ma mère un peu moins, mais ma mère était modiste, elle était du milieu de la mode. Ma tante était première chez Fat. Donc c'était deux mondes différents. Mes deux sœurs étaient des grosses lectrices, et ma sœur a... L'une est venue... Elle travaillait dans le milieu à la sécurité sociale. Et puis mon autre sœur, elle, a passé son brevet de libraire. Parce que pour ouvrir une librairie, il fallait avoir son brevet à l'époque. Et elle est allée libraire pendant une dizaine d'années. Et puis elle est rentrée chez Gallimard. Elle est devenue directrice administrative des ventes. Puis ensuite, elle a changé de métier. Elle est allée dans une société américaine. Bon, elle a fait une belle carrière de secrétaire de direction, mais dans une société américaine. Mais toujours la passion du livre. Je veux dire que ça ne l'a pas quitté. Mon autre sœur, ça ne l'a pas quitté. Et moi, évidemment, ça n'a fait qu'amplifier.
Alors, Gérard Gauthier, qu'est-ce que l'école Estienne?
Alors, l'école Estienne, c'était l'école du livre. Donc, on formait à cette école en 4 ans. On formait les hauts métiers de l'imprimerie, typo, offset, hélio. On formait aux métiers de relieur, de doreur, de dessinateur litho, de graveur en relief et de taille douce. Et c'était une école qui était très soutenue par les maîtres imprimeurs de l'époque. Ça fait partie des 4 écoles d'arts appliqués de Paris, à savoir Estienne, l'école Boulle, l'école Dupéré et Olivier de Serre. Boulle, c'était le bois, Olivier de Serre, c'était le design, et Dupéré, c'était la mode. Ce sont 4 écoles de Paris, de la ville de Paris, mais qui dépendent de l'éducation nationale. Et cette école a formé de très grands graveurs, de grands dessinateurs, les graveurs de taille douce pour le timbre, entre autres. On a eu des cinés passés à Estienne, si ma mémoire ne me trompe pas. Douaneau est allé à Estienne, il était typographe. Voilà. Donc, il y a eu des... Fontana Rosa est à Estienne. Enfin, on a eu comme ça le dessinateur, le peintre, pas les musiciens, pas ses enfants. Et il y a eu comme ça toute une pléiade de grands artistes, peu connus du grand public, mais très connus dans le milieu, parce que quand on grave un timbre et qu'on fait une carrière de graveur de timbre, on est très connu. Mais les gens ne connaissent pas forcément, ils ignorent. Mais ça donne en général de magnifiques artistes. Il y a il y avait un qui est très recherché par les bibliophiles, entre autres, c'est Bonfils, parce que Bonfils était un graveur sur bois et il était professeur à l'école Estienne. Et ça, il a fait très très belles éditions dans les maisons de l'époque, entre les deux guerres. Donc voilà, c'est une école qui a formé des techniciens de l'imprimerie, typo, offset, hélio, puisque moi j'étais la première génération d'héliograveurs sortant de l'école Estienne. C'était un métier qui prenait de l'essor, on imprime par image, elle, etc., en héliogravure. Il y avait beaucoup d'héliograveurs qui faisaient ce qu'on appelle le labeur, c'est-à-dire les livres d'Artaud, par exemple, étaient imprimés en héliogravure. Mais tout cela, c'est un procédé qui coûte cher. On grave sur cuivre, donc c'est devenu exorbitant. Et puis, petit à petit, ce qu'on a appelé le labeur a disparu, est resté l'héliogravure pour la presse, pour la grande presse, le magazine, parce que ça permettait de très gros tirages.
Alors, si vous le voulez bien, Gérard, on va marquer un premier temps de pause, une petite escale jazzy avec un titre qui est My Foolish Heart. Et on retrouvera Gérard Gauthier d'ici quelques minutes. Il est notre invité ce soir pour continuer d'évoquer son parcours d'éditeur, créateur des éditions de l'Armançon. Bonne soirée à l'écoute de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Les éditions de l'Armançon ont 25 ans en cette année 2012 et pour marquer la longévité de cette belle maison d'édition, nous nous entretenons ce soir avec son créateur, Gérard Gauthier, qui nous confie ses souvenirs, évoque ses rencontres avec quelques-unes des grandes figures de notre littérature. Voici venu le moment, Gérard, de nous parler de quelle manière vous allez rentrer dans une grande maison d'édition en tant que représentant à l'international, c'est-à-dire que vous rentrez chez Gallimard.
Absolument. Je travaillais à l'époque pour une société de relieux industriels qui faisait de ce qu'on appelle le catalogue, de feuillet mobile. J'y ai passé 7 ans, fort satisfait de cette fonction. Mais à la fin, pour des raisons diverses, le patron avait changé, celui qui m'avait embauché avait cédé sa maison à un autre. Enfin, c'était plus exactement ce que j'aimais. Et je commençais à vouloir trouver autre chose. Il s'est avéré que ma sœur était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travaillait chez Gallimard. Au moment où Gallimard reprend sa liberté de distribution par rapport à Hachette, et à ce moment-là, cherchait à refaire toute une équipe de représentants pour la France et l'export. Et c'était Bernard Fixot qui était directeur des ventes.
Qui était un de vos camarades de classe.
C'était pas un camarade de classe, c'était un camarade de sport. On faisait du sport ensemble à Arcueil, puisqu'il habitait Arcueil aussi. On a le même âge, quelques mois après, il était un peu plus vieux que moi. Et voilà, il s'est trouvé que lui était libraire aussi, il connaissait ma sœur, puisqu'ils avaient, ils avaient travaillé ensemble chez Hachette. Et puis quand Gallimard a décidé de prendre sa propre liberté avec sa société de distribution, la SEDIS, eh bien, ils ont cherché à, évidemment, refaire des équipes de vente. Cette équipe de vente était à peu près complète et ils cherchaient un poste pour le Sud-Ouest ou pour la Suisse. Et moi, j'avais acheté, en 1969, une maison, pas loin d'ici, pas loin de Précy. Et du coup, il m'avait dit, bah, viens me voir. Je suis allé le voir. J'avais envie de changer de métier. J'avais envie de rentrer dans l'édition parce que c'était quand même la base de mon métier. C'était mon tout premier poste, hein, parce que la première poste que j'ai eu, c'était dans une maison d'édition qui faisait de la revue.
Alors, on est en quelle année, là, Gérard? 72?
On est en 72.
Ça fait 40 ans.
Ça se passe, oui, ça se passe fin 71, début 72. Je donne ma démission en fin février. Je rentre le 1er mai chez Gallimard pour m'occuper de la Suisse. Alors que je connaissais la librairie, mais je n'avais jamais fait ce métier par rapport à d'autres confrères, d'autres collègues qui, eux, avaient été chez Lafond ou au Seuil. Mais bon, je crois que quand on aime la littérature, ce n'est pas un gros souci. C'était ma fonction, pardon, oui. Mais commerciale. J'ai été commercial en sortant même d'Estienne, tout de suite. Donc, ça ne me posait pas de problème, les relations avec la clientèle. Donc 72, je rentre et là je pars en Suisse tout de suite.
Et je voulais dire, c'est 72, c'est aussi l'année où est publié chez de Noël le pape des escargots. Alors je parle de Vincenot parce que c'est quelqu'un qui a croisé votre route et qui est un ami.
Absolument, dès les premiers jours. Alors pourquoi Vincenot et de Noël? Tout simplement parce que de Noël était une filiale de Gallimard et pour ces nouvelles équipes de représentants, ils avaient repris ce qu'on appelait la diffusion de Noël, où il y avait à l'époque 8 ou 9 éditeurs, je n'ai plus tout à fait en mémoire, dont la Table Ronde, Mercure de France, de Noël, édition de Minuit, les deux coques d'or, non pas les deux coques d'or, RST, enfin, donc des, il y avait, oui, 8, il y a la thèse qui venait de s'ouvrir, et donc le travail consistait à représenter l'ensemble de la distribution SEDIS, à la fois Gallimard et la diffusion de Noël, qui s'était regroupée. Et donc je me suis retrouvé à vendre, évidemment, les ouvrages de Gallimard, mais aussi les ouvrages des autres éditeurs qui étaient dans ce groupe. Il s'est trouvé qu'au moment où je prenais mes fonctions, de Noël publiait l'ouvrage d'Henri Vincenot, le pape des escargots. Et un ami qui habitait à Vallon et qui était représentant chez de Noël me dit « Tiens, tu as une maison en Bourgogne, tu devrais lire cet ouvrage, c'est un bourguignon qui l'a écrit et ça devrait t'amuser, ça devrait te plaire. » Et j'ai découvert le pape des escargots comme ça, avant même d'avoir pris mes fonctions, puisqu'il était sorti quelques semaines avant. Mais bon, je recevais les ouvrages pour me familiariser avec la production. Et je n'ai eu qu'une envie, c'est rencontrer Henri Vincenot. Voilà comment est née notre amitié.
Alors vous rencontrez beaucoup d'autres personnes, notamment François Nourricier.
Oui, alors il s'est trouvé, là j'ai eu une chance exceptionnelle. Pendant les 3 ans dont je me suis occupé, pendant les 3 ans où je me suis occupé de la Suisse, et donc des éditeurs qui étaient à la SEDIS, ça a été une explosion d'auteurs extraordinaires qui ont été publiés à la fois chez Gallimard, chez La Thèse, chez De Noël, etc. Et entre autres, un des rares livres d'ailleurs qu'a publié Nourricier chez Gallimard a fait que les attachés de presse envoyaient les auteurs faire des conférences ou faire des interviews, etc. Et évidemment, la Suisse, c'était quasiment, presque, j'allais dire, incontournable. Les attachés de presse, il y avait d'excellentes émissions à la radio. Une émission qui était faite par Jacques Beaufort, dont les Suisses disaient qu'elle était une copie de l'émission de Chancel, et méchamment, ils l'appelaient Radio Copie. Et il avait cette émission où les auteurs des maisons d'édition venaient avec plaisir. Il y avait une émission à la télévision, qui était à la télévision suisse romande, qui était excellente. Et puis il y avait une presse qui s'occupait énormément du livre. Et ça, c'était l'époque où la presse, aussi bien en France qu'en Suisse, était florissante. Et donc, très naturellement, les auteurs faisaient un tour par la Belgique, la Suisse, moins le Canada, et puis évidemment la France. Et donc j'ai reçu comme ça, j'allais chercher les auteurs et je m'occupais d'eux. Quelquefois il y avait des signatures dans les librairies, mais la plupart du temps c'était pour les accompagner, pour les prendre en charge, pour pas qu'ils se sentent isolés en Suisse. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'appréhender tous les problèmes de l'attaché de presse, du métier d'attaché de presse, parce que ça c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça m'a beaucoup servi après quand j'ai ouvert la maison, presque 12 ans plus tard, 15 ans plus tard. Et donc, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnalités marquantes de l'époque. Alors, vous avez cité François Nourricier. Il s'est trouvé qu'on avait une passion commune pour l'opéra, donc on a passé une journée merveilleuse. Mais j'ai reçu Jean d'Ormesson, j'ai reçu Alphonse Boudard, j'ai reçu Marcel Duhamel,
Et Romain Gary ?
Romain Gary, absolument.
Wilmy Lajar ?
Ah, c'était Romain Gary. Il était venu pour Romain Gary, il n'était pas venu pour Wilmy Lajar. Wilmy Lajar, on ne l'a su que lorsqu'il est décédé. Mais ça m'a fait rencontrer des gens exceptionnels. Et évidemment, la chance que j'ai eue, c'était de rencontrer Albert Cohen, qui, lui, demeurait en Suisse et qui avait publié chez Calimard, quelques temps auparavant, Belle du Seigneur, qui était un homme absolument extraordinaire, merveilleux, et c'est des rencontres, on les cherche pas spécialement. Il s'est trouvé que il y avait eu une manifestation de Flammarion en Suisse où ils avaient fait un grand raout, excusez-moi le terme, il n'y en a pas d'autre, pour faire mousser un peu les ventes. Ils avaient invité les libraires et j'avais proposé, moi, à la maison Gallimard, de faire la même chose, parce que je trouvais que c'était, ils avaient quand même des grands auteurs. Il y avait Starobinski qui habitait la Suisse, donc j'ai dit, on peut pas laisser Flammarion tout ça. Et donc on a fait une grande manifestation, et là, à cette manifestation, il y avait évidemment Jean Starobinski, il y avait Aldas, et on avait invité Albert Cohen. Et Albert Cohen se déplaçait très peu, il n'aimait pas sortir. Et donc c'est comme ça que je me suis occupé. J'étais le chercher, puis voilà, puis on s'est lié. Pendant tout mon temps en Suisse, j'allais le voir assez régulièrement.
On reparlera de votre rencontre avec Albert Cohen. Pour l'instant, on va à nouveau souffler, si vous le voulez bien, Gérard. Je remercie les auditrices et auditeurs qui nous reçoivent sur le 90.5 ou qui nous écoutent en direct via Internet sur le www.radion.fr. Vous êtes à bord de Wagon Livre, 86e numéro ce soir, consacré au 25e anniversaire des éditions de l'Armançon qu'a créé Gérard Gauthier, qui est ce soir devant notre micro. Petite escale en chanson, nous écoutons Barbara d'Alcantara, et voici En rouge et en doré.
Si je pouvais, je partirais déjà là où la pluie est moins triste. Et qui ne me parle même pas. Moi j'aimerais vivre le cœur tout léger, la tête ivre, de tourner, de danser. J'aimerais écrire joint rouge en doré, juste pour le plaisir de vos sourires et chanter. Si je savais comment forcer le destin et passer de l'envie à la réalité, je ferai de ma vie ce tout joli chemin que l'on m'a tant et tant fait rêver. Oui, je veux vivre le cœur tout léger, la tête ivre, de tourner, de danser, et puis écrire joint rouge en doré, juste pour le plaisir de vos visages enchantés.
Radion. Chanteuse découverte par Julos Bocarne, c'était Barbara d'Alcantara sur votre radio locale. Avant de redonner la parole à notre invité, l'éditeur Gérard Gauthier, je vous rappelle si besoin que vous pouvez réécouter ou copier les derniers numéros de Wagon Livre à partir de vos smartphones, tablettes ou autres ordinateurs en vous rendant sur le site internet de Radion, www.radion.fr. Gérard Gauthier, cette rencontre avec Albert Cohen, l'auteur donc du livre de ma mère, vous lui avez acheté des cigarettes, des gauloises, me semble-t-il.
Ah oui, ça c'est fait partie des anecdotes. Et Albert Cohen était un monsieur âgé, qui était fatigué, les médecins lui avaient interdit de fumer, parce que bon, je pense que c'était quelqu'un qui devait fumer beaucoup. Et chaque fois qu'un visiteur arrivait, quand sa femme n'était pas là, systématiquement, il avait la... Est-ce que vous fumez ? Alors, non. Ah ben c'est dommage. Ah, parce que ah, j'aurais bien pris une cigarette. Et puis, je ne fumais pas, effectivement. Et puis, j'apprends qu'il fumait des gauloises jaunes. Je pense que c'était des gauloises d'exportation. Et en Suisse, le tabac, il y en a partout. Hein. Et donc, un jour, je découvre chez Davidoff qu'il y avait effectivement des gauloises jaunes. Donc, j'achète un paquet de gauloises jaunes et le jour où j'avais un rendez-vous avec Albert Cohen, je lui avais amené ce paquet de gauloises jaunes qui était évidemment pour lui un grand plaisir parce qu'il les fumait en cachette, ce qui n'était pas très bien vis-à-vis de son épouse, j'aurais pas dû le faire, mais c'est vrai que pour lui c'était quelque chose de... Alors c'était un vrai plaisir, quoi, parce que comme ça lui était interdit, il en profitait encore plus. Voilà. Mais c'était un homme extrêmement attentif à ses visiteurs. Et moi, j'ai gardé des lettres de lui où il demandait des nouvelles de ma fille. Enfin, c'était quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Il pensait que j'avais un poste important à Gallimard. Il me faisait toujours me charger de commission à l'égard de Claude Gallimard parce qu'il aurait voulu être traduit. Or, Belle du Seigneur, c'est 1000 pages, et ça a été un problème pour la traduction. Et il n'a pas connu la traduction américaine de son vivant. Et c'était une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu avoir le Nobel, puisque pour avoir le Nobel, il faut être traduit. Alors que Joseph Kessel faisait tout de son pouvoir pour essayer de le faire obtenir.
Gérard Gauthier, vous ne tarissez pas d'éloges sur les éditions de Noël, parce que vous découvrez une maison d'édition qui faisait des albums. Il y avait les albums de Sempé, de Jacques Faizan étaient publiés chez De Noël, et la littérature pure, la littérature populaire. Finalement, vous découvrez aussi Vincenot chez De Noël. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu d'Henri Vincenot, surtout en cette année 2012 où les éditions de l'Armançon ont produit un très bel album Vincenot, hein, avec des photos d'archives de Claudine Vincenot, de vous-même, Gérard, et puis des textes de la fille d'Henri Vincenot à l'occasion du 100e anniversaire de la mort du père La Bourgogne. Alors, cette rencontre avec Vincenot, quand intervient-elle ?
Elle intervient, alors je peux me permettre, non, c'est le 100e anniversaire de sa naissance.
De la naissance, parce pardon, que pas de la mort.
Je crains de ne pas être là pour le 100e anniversaire de sa mort.
Pardon, de sa naissance en 1912.
J'ai des doutes où dans quel état je serai, je n'ose pas le... Et donc, ma rencontre est presque concomitante avec mon entrée chez De Noël, et Gallimard. Puisque le livre sort en 72, et je le rends donc au début de l'année 72, et je viens en vacances avec ma fille et ma femme ici, et je dis j'aimerais bien rencontrer Henri Vincenot. Et donc on me dit oh, bah, c'est pas compliqué, Commarin, vous y allez. Effectivement, j'arrive à Commarin, on me dit ah, bah, il n'est pas là, il doit être au lac de Pentier. Donc je vais sur les bords du lac de Pentier, je trouve Henri, sa femme, ses petites filles, donc les filles de François. Il devait y avoir une des filles de Claudine aussi qui était là. Et très naturellement, aucun problème, on discute, et nos relations sont nées le plus simplement du monde, et ça s'est fait sans, de part et d'autre, sans aucune affectation, on était là, on était bien, on avait l'impression d'être en famille, et ça a duré comme ça jusqu'à la disparition de Mme Vincenot et après la sienne, puisque... Entre le moment où Mme Vincenot a disparu et le moment où Henri est parti, j'ai accompagné évidemment Henri, j'ai continué à l'accompagner dans nos pérégrinations françaises quand on allait promouvoir l'œuvre de Cher, puisque c'était le livre qui est sorti après le décès de sa femme.
Moi, j'aimerais que vous nous parliez de la Bilbaude, Gérard.
Ah, ben alors la Bilbaude, c'est
parce que vous y avez quand même, vous avez, il faut le dire, votre modestie du tenant souffrir, vous avez contribué à la publication de la Bilbaude.
Oui, c'est tout à fait vrai, d'ailleurs, je n'ai aucune raison de le cacher. Il s'est trouvé que on avait déjà fait avec Henri Vincenot, depuis que j'étais rentré, moi je suis de Noël, il y avait le pape, il y avait le sang de l'Atlas. Et il avait été sollicité par Hachette pour écrire dans la série La vie quotidienne. Donc Albert Blanchard, qui ne voyait pas d'inconvénient, l'a laissé partir, faire ses ouvrages chez Hachette. Moi, j'étais un petit peu triste, parce que c'est ce qui l'a quand même mis le pied à l'étrier. Hein. C'est comme ça qu'il est passé chez Chancel, et c'est comme ça que Pivot l'a reçu pour la première fois avec La vie des paysans bourguignons au temps de Lamartine. Il s'est trouvé que, parallèlement à cela, Jean Mallory, directeur de la collection Terre humaine, avait publié dans sa collection Jacques Elias, Le cheval d'orgueil. Et il avait envie de développer des livres dans l'esprit de Terre humaine sur les provinces, donc la Bretagne, la Bourgogne, l'Auvergne. Et presque naturellement, il avait déjà entendu parler d'Henri Vincenot, il connaissait certainement ce qu'il faisait. Et il le harcelait gentiment en disant « Ah, j'aimerais bien que vous veniez. » Il y a chez Henri une collection de la collection Terre humaine assez impressionnante, parce qu'il lui envoyait des livres à chaque fois. Et puis un beau jour, Henri, j'avais dû aller le voir pour une raison ou pour une autre, il dit « Oh, je suis embêté, il y a Plon qui m'a envoyé un contrat. » Je dis « Non, vous n'allez pas en plus aller chez Plon après avoir été chez Hachette. » Puis je dis « Mais pourquoi il vous envoie un contrat? Qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Oh, ben, il voudrait que je lui fasse un livre pour Terre humaine, mais moi, ça ne me dit rien, ça m'embête. » Et puis j'ai dit « Mais s'il vous propose ça, c'est qu'il y a quelque chose. »« Ah oui, j'ai bien quelque chose, mais c'est un fatras de papier. Puis j'ai pas envie de le taper à la machine, ça m'embête. » Je dis « Si ça vous embête, vous retournez le contrat, enfin, vous le déchirez, vous lui dites que ça ne vous intéresse pas. » »« Oh oui, c'est ce que je vais faire. » Et puis j'ai dit « Mais vous me dites que vous avez quelque chose, mais pourquoi à ce moment-là est-ce qu'on ne le ferait pas ?» « Ah oui, mais vous savez, faut que je mette tout en ordre, faut que je le retape. » J'ai dit « C'est pas grave, moi, on va faire autrement, je vais vous le faire taper. »« Ah, mais c'est pas possible, c'est illisible, vous savez, comme je travaille. » Et il me montre effectivement un paquet de feuilles. Bon. J'ai dit « Écoutez, moi, je vous propose quelque chose. Lisez vos feuillets, lisez-les au magnétophone. » Et puis nous, il y aura une secrétaire. Vous savez, les secrétaires sont très habitués à taper le courrier à partir d'un dictaphone avec leur patron, donc c'est pas un souci. Alors, je vois, puis je sais pas. Ben, j'ai dit, écoutez, je vous en amène un, puis vous ferez un essai. Donc, je suis rentré le lundi à mon bureau à Paris, un peu ennuyé parce que je n'en avais pas parlé à Albert Blanchard, et puis je vais le voir, je dis, voilà ce que je me suis permis de faire ça. Ah oui, faites ce que vous voulez avec votre bourguignon. Très bien, je fais donc ce que je veux avec mon bourguignon, je lui amène le magnétophone le week-end d'après, et Henri commence à lire. Et on a fait la bibaude à partir de ce qu'il avait lu, on l'a fait taper par une jeune femme de chez De Noël. On lui renvoyait les papiers tapés, il les corrigeait, parce qu'évidemment, c'était pas évident. Et puis, il a retravaillé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui lui convenaient pas, une fois alors donc, il les a réécrits. Et le manuscrit est à la fois tapé à la machine et manuscrit de sa propre main. C'est ce qui a servi pour l'édition. Le manuscrit original, il est à la bibliothèque municipale de Dijon, il est conservé, mais on ne peut pas s'en servir, on n'aurait jamais pu travailler sur ce manuscrit, parce qu'effectivement, vous savez, Henri, il avait l'habitude d'écrire sur ce qui lui tombait sous la main. Et puis, il avait une idée, toc, il la notait, hop, il la mettait dans le classeur. Alors, c'était le classeur de la vie des paysans, c'était le classeur du chemin de fer, c'était le classeur de la bibaude. Donc, effectivement, c'était pas possible. Il n'y avait que lui qui pouvait s'en sortir, donc le magnétophone a été un outil extrêmement utile. Et finalement, il s'en est très bien sorti, à tel point qu'il en a fait un second de la même manière, en se disant, bah, après tout, c'est bien pratique, on va recommencer pour celui-là, ça lui évitait de taper à la machine, parce qu'il n'était pas très habile.
Et la bibaude a un grand succès de librairie.
Alors,
un succès pour Vincenot.
Oui, parce que la bibaude, c'est dans la lignée du cheval d'orgueil, parce que c'est un peu ethnographique, c'est un peu. Et en même temps, c'est la verve. Parce que le cheval d'orgueil, c'est difficile, c'est pas évident à lire. Vous savez, c'est pas une lecture, c'est pas très linéaire. La bibaude, elle, c'est la vie, c'est la chasse, c'est le plaisir, c'est les ancêtres, c'est la cuisine, c'est les bois, les friches, c'est tout à la fois. Et ça a été un succès immédiat, parce que je pense que ça correspondait à un moment donné à un besoin de la part des lecteurs de retrouver leurs racines. C'est pas évident que ça serait encore la même chose maintenant. Je suis pas sûr qu'il ferait le même succès qu'il a fait en 78.
Alors, nous, on a malheureusement pas le temps de bibouder. On est obligé d'aller droit au but. On va à nouveau faire une petite pause. Je rappelle que notre invité est Gérard Gauthier, créateur avec son épouse Chantal en 87 à Précis-Soutil des éditions de l'Armançon. On va écouter Françoise Hardy. Tirez pas sur l'ambulance. A tout de suite avec notre invité Gérard Gauthier. Notre invité ne tire pas sur les ambulances, mais à sa manière, il dégaine lorsqu'il découvre un manuscrit et un auteur de talent qu'il va contribuer à faire connaître et à partager pour notre plus grand plaisir en le publiant aux éditions de l'Armançon qu'il a créé il y a 25 ans pour étancher, cher Gérard, notre soif de lecture et de livres. Venons-en, on avance un peu. Alors, chez De Noël, vous y restez une dizaine d'années, c'est 10 ans de pur bonheur ?
Chez De Noël, je fais 72-75 en Suisse, la rentrée 75 jusqu'à la rentrée 86, je suis chez De Noël. Et je quitte De Noël en septembre 86, fin août de 86. Je me donne une année tranquille et j'ouvre cette maison d'édition en 87, tout en continuant à m'occuper sur Paris avec des amis. Et même continuer encore un peu à travailler pour De Noël, aussi un petit peu pour Gallimard. Et puis, surtout, j'ai pris un peu plus de temps pour l'école Estienne, où j'ai fait davantage de cours que je n'en faisais auparavant, parce que j'en faisais simplement le samedi matin, un petit peu comme ça, à la demande d'un de mes anciens professeurs, qui m'avait demandé de venir en me disant « Ah, on a besoin de quelqu'un qui nous parle de l'édition. » Moi, je n'étais pas professeur, je lui ai dit « Mais je ne suis pas fait pour ça. »« Mais si, je vous connais, je sais que vous allez vous en sortir. » Et voilà, et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec 10 heures de cours à l'école Estienne, ce qui m'a été d'ailleurs passionnant, puisque j'ai formé plein de jeunes gens, garçons et filles, à ce métier, dont une au moins qui est très connue maintenant, c'est Véronique Ovaldé, et une autre qui est maintenant ma collaboratrice. Alors elle est moins connue, mais moi elle m'est
très... C'est clair.
C'est clair,
Mignard. Pas très loin de voilà. Nous. Alors, comment germe l'idée de créer sa propre maison d'édition en Bourgogne ?
Eh bien, tout simplement parce que quand je m'occupais d'une directeur commercial chez De Noël et directeur de la publicité, j'avais rencontré les gens du Républicain Lorrain, qui avait une agence de publicité, qui était devenue notre agence de pub, et en même temps qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait les éditions Serpenoises. Et je me suis dit, mais puisque il y a des maisons d'édition en Lorraine, en Alsace, en Bretagne, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas en Bourgogne ? Or, il n'y en avait pas en Bourgogne. Il y avait, quand j'ai eu cette idée, il y avait à l'époque les éditions d'Abbé de la Pierre qui vire, donc Zodiac. Il y avait Obsidiane dans Lyon, à Saint-Julien-du-Sceau. Il y avait les éditions du Bien Public et Faton qui venaient de se créer.
Et les éditions de Sivry ?
Alors les éditions de Sivry n'existaient malheureusement déjà plus. Les éditions de Sivry ont dû fermer, je crois. C'était la malchance de Lucette Desvignes et sa chance en même temps, puisque ils avaient publié le premier roman de Lucette Desvignes, qui s'appelait Les Nœuds d'argile, et quand elle a voulu publier le second tome, malheureusement Alain Schroeter avait fermé, et donc il était venu voir de Noël, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu Lucette Desvignes, pour voir si ça nous intéressait. Albert Blanchard n'a pas donné suite. Moi je l'ai regretté, parce que je trouvais que c'était une bonne chose de prendre la suite d'Alain Schroeter pour les livres de Lucette Desvignes. Elle est allée dans une autre maison parisienne. On s'est un peu perdu, on s'est retrouvé quand j'ai ouvert la maison d'édition.
Et vous aussi les éditions de Saint-Seine-l'Abbaye ?
Alors les éditions de Saint-Seine avaient terminé aussi. Je crois que ça s'est terminé avant que j'ouvre aussi. Non, c'est pour ça, il y avait un
créneau à prendre.
Et donc, et puis moi je le... Bon, le Saint-Seine, c'était des cartes postales. Celui qui avait été le plus proche peut-être de ce que je fais maintenant, c'est Alain Schroeter, vraiment. Et moi j'aimais bien parce que je m'arrêtais pratiquement. Chaque fois qu'on venait en week-end, je repassais par Avalon et je m'arrêtais chez lui. Et il avait une galerie de peinture et de gravure. Il faisait du livre ancien. Non, c'était quelqu'un qui avait de bonnes idées. Moi j'ai beaucoup regretté qu'il arrête parce que je pense qu'il. Mais bon, c'était. Peut-être qu'il avait été un peu trop tôt, c'est possible aussi. Peut-être qu'il a voulu aller trop vite. J'ai pas trop suivi à l'époque. Moi, j'étais encore sur Paris, donc j'étais encore à Paris. Je m'occupais pas donc de trop de. C'est d'un seul coup, j'ai appris brutalement que quand il a quitté Avalon, qu'il est allé à Dijon, je crois qu'à partir de ce moment-là, ça n'a plus été tout à fait comme il fallait. Je pense que les charges qu'il avait sur Dijon devaient être trop lourdes par rapport aux ventes qu'il pouvait espérer.
Alors, vous créez la maison d'édition en 87. L'inauguration officielle a lieu début novembre.
87. Le 7 novembre 87.
7 novembre. Voilà. Et là, vous avez un parrain d'exception pour cette maison.
Oui, Jacques Faizan était un ami. Il est resté ami jusqu'à la fin de ses jours. On a continué à se voir bien après que j'ai quitté de Noël. Il était d'ailleurs là aussi pour les 10 ans. Et ça est vraiment non, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Alors c'était indépendamment de toute idée. C'était vraiment. On n'attendait rien l'un de l'autre. Moi, je m'occupais de lui en tant que directeur commercial. On a fait beaucoup de signatures ensemble. On s'entendait bien. C'était quelqu'un, c'était un très agréable compagnon. Et quand j'ai ouvert cette maison d'édition, il avait regretté. Je me souviens de petits mots qu'il m'avait fait parce qu'il trouvait dommage que je quitte de Noël. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et bon, Arce Jacques aussi m'avait mis un petit mot très gentil en disant que va devenir cette maison sans vous. C'était gentil, la maison a continué quand même sans moi. Mais bon, c'est vrai que j'avais fini par créer des liens très très serrés, très 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 profonds avec pas mal d'auteurs de la maison. Et j'avais envie que Jacques soit là parce que c'était un lien entre de Noël que je venais de quitter depuis un an et puis cette maison qui s'ouvrait et je trouvais que c'était et puis c'était le dessin, ça avait un petit lien avec mon père, c'est indépendamment de l'amitié, il y avait des petites raisons comme ça qui faisaient que j'étais content que Jacques accepte d'être le parrain.
On va se quitter quelques minutes, Gérard Gauthier. C'est Zazie qui va nous tenir compagnie. Voici Le long de la route. Mais la route, on la reprend avec vous juste après, si vous le voulez bien, Gérard Gauthier. On se retrouve sur Radion, à bord de Wagon Livre, avec notre éditeur, créateur des éditions de l'Armançon, Gérard Gauthier. A tout de suite.
On n'a pas pris la peine se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'y crois et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir dans nos petites mains. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux, dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissant nos destins. Sans plus aucun doute, j'ai froid et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Ouvrons nos petites mains, coûte que coûte, prenons-nous la main. Le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots. Pas les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con peut être con car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. À se confirmer, prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai pas et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Devrais rendre nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves à se confirmer. C'est con peut être con à se cacher de soi-même. C'est con peut être con car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
Le temps passe vite et le terminus de notre wagon-livre n'est plus très loin. On a le plaisir ce soir de s'entretenir avec le créateur des éditions de l'Armançon, Gérard Gautier. Alors, Gérard Gautier, quel a été le premier ouvrage sorti avec estampillé éditions de l'Armançon ?
C'est une réimpression d'un livre de Lucien Loja, N'en sout-il un coin de l'Aussois. Et c'était parce que il était épuisé et j'avais dit tiens, puisque je suis dans l'Aussois, je vais commencer par faire ce livre qui je trouve intéressant, puis il parlait de la région où j'étais. Et puis, au départ, je n'avais pas l'intention de faire tout ce que j'ai fait depuis. Hein. Je continuais à travailler à Paris, j'avais envie de faire 4-5 livres, plutôt des reprints d'ailleurs, au départ. Et puis, sortant cet ouvrage, le deuxième livre, c'est le docteur Mélin qui me dit « Ah, mais j'ai un livre que j'aimerais bien voir édité », c'était « Le médecin de campagne ». Donc j'ai dit « Bah oui, pourquoi pas, je l'ai lu, je trouvais que c'était intéressant, c'était une tranche de vie importante, ça d'ailleurs ». Très bien fonctionné. Et puis, le hasard a fait que il y avait à l'époque, qui s'était créé, alors pratiquement un petit peu avant nous, une maison d'édition littéraire qui s'appelait L'Alei, par Jean-Michel Lecomte. Et il avait créé, il avait décidé de faire un prix du roman, Bourguignon. Et il avait reçu plusieurs manuscrits, dont un de Janine Chaillot et un autre de Dominique Ponviane. Et le choix s'est porté pour lui sur le livre de Ponviane. Et donc, Janine Chaillot m'a envoyé le manuscrit en me disant, est-ce que ça vous intéresse? Et ça s'appelait La Serve. Ça s'appelait pas La Serve. C'était Bleu était la robe de Flore, ce que tu as un peu, le titre n'était pas terrible. Donc, je lui ai proposé un autre titre. Et ça a été le premier inédit que j'ai publié. Puis ensuite est venu Le vin de l'Aussois de Loïc Amric. Et là, les manuscrits ont commencé à venir. Et donc, moi, j'avais quand même toujours, j'étais tout seul, donc j'avais décidé de me restreindre. Quoi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de manuscrits. Et donc, j'ai augmenté le nombre d'ouvrages publiés. Et je ne me suis pas, je n'ai pas voulu me contraindre en faisant des collections. Donc,
il n'y a pas de collection à l'Armançon.
Les collections, on peut les trouver aisément, mais elles se sont faites naturellement au fil des envois de manuscrits. C'est-à-dire que quand on m'a envoyé un jour, Lucien Hérard m'a proposé de rééditer l'ouvrage de sa femme, Madeleine Hérard, sur Mademoiselle de Sévigné, Madame de Sévigné et Demoiselle de Bourgogne, j'ai dit tiens, mais ça ferait une collection de biographies. Et du coup, j'ai gardé cette série. Et donc, j'ai eu d'autres livres qui sont restés toujours dans la même présentation, avec des couvertures un peu différentes. Mais ça s'est fait naturellement. J'ai pas cherché, j'ai jamais fait un livre de commande. Les projets sont venus et petit à petit, ça a créé des genres différents.
En ce mois d'octobre 2012, à quelques semaines du 25e anniversaire des éditions de l'Armançon, Combien d'ouvrages au catalogue de l'Armançon ?
Alors, je vais dire un chiffre tout rond, c'est à peut-être 2 ou 3 près, 300.
D'accord. Alors, par exemple, vous avez publié le premier roman de Didier Cornaille.
Alors ça a été mon grand plaisir. C'était un de nos amis communs, Didier et moi, qui était journaliste, et qui lui avait dit, mais tu dois avoir quelque chose, toi, tu dois écrire, etc. Et il lui a dit, mais envoie ton... Alors, il dit, oui, j'ai un roman, ben envoie-le, je vais... Alors, il lui avait donné des adresses, et puis c'était revenu, ça n'avait pas plu. Puis finalement, il lui dit, mais tu devrais l'envoyer à Gérard Gauthier, il vient d'ouvrir une maison d'édition. Et ça s'est passé. Donc, je ne travaillais que le week-end ici. Je travaillais le vendredi, samedi, dimanche et je rentrais le dimanche soir à Paris. Et donc j'ai reçu ce manuscrit, je l'ai emmené avec moi à lire à Paris et le dimanche soir, je me souviens, je l'ai appelé en lui disant « Je suis désolé de vous déranger un dimanche. Voilà, je viens de lire votre manuscrit, j'aimerais qu'on se voit la semaine prochaine. »
Donc c'était le vol de la Buse.
C'était le vol de la Buse. Je ne suis là que le week-end, est-ce que je peux venir vous voir un samedi et voilà. Et ça a mis le pied à l'étrier à Didier. On a fait un second roman, Le vol de la Buse, premier roman de Didier, un des premier succès que j'ai fait ici aux éditions, et puis celui Olivier de Serres, ce oui. qui était quand même le même que Henri Vincenot avait eu pour le Pape des Escargots. Voilà. Donc c'était
en 92.
J'étais très fier de moi.
C'était il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans.
Comme un anniversaire.
Je me suis dit, oh là là, ça y est, le monde est à moi. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Le monde n'est jamais à vous comme ça aussi facilement.
Un prix par année pour une maison d'édition, c'est formidable.
Oui, mais...
Ça dope les ventes.
Les prix qu'on a pu avoir pour différents d'ouvrages qu'on a publiés sont des prix qui font plaisir, qui font plaisir à l'auteur, qui font plaisir à l'éditeur, mais qui ne sont pas des prix qui amènent un
retour. Même le prix de Culture Bourguignonne, je pense à Gérard Calmet, oui, par exemple,
il avait eu le prix de Culture Bourguignonne pour Lamartine Voix de la République. Mais si vous voulez, ce sont des prix qui sont locaux et qui n'ont pas le retentissement qu'on pourrait espérer avec des prix nationaux. Mais qu'importe, l'essentiel, ça attire l'attention et je crois que c'est vrai que le nombre de prix que l'on a eu est assez... C'est satisfaisant pour un éditeur.
Le choix du titre est fondamental. Alors, René Fallet avait le don de trouver de beaux titres.
Oui, René était un spécialiste. Mais lui, René travaillait un peu différemment d'autres auteurs. René, lui, il avait souvent le titre avant. C'est-à-dire qu'un jour, il vient me voir, il avait publié... C'était, je crois, Langevine. Et il me dit... Oh, j'en ai assez, il y avait cette voix un peu rocailleuse de fumeur, et il me dit ouais, j'en ai assez avec leur soupe, machin, leur truc là. Moi je vais leur en faire une soupe, ça va s'appeler la soupe aux choux. Et il dit puis on va faire une couverture par Blachon. Bon, bah écoute, il me raconte l'histoire en deux mots, je dis pourquoi pas, et on sort la soupe aux choux. Et la soupe aux choux, ça a été un succès extraordinaire. Donc il est à la fin de sa vie, il vient me voir, et il me dit. Il était fatigué, il était mal. J'ai plus le courage d'écrire des romans. Je vais en faire encore un, puis après je ferai comme Vialat, des petits aphorismes. Et puis, mais là, le dernier roman, ça s'appellera Marie Pantoufle. Et il me dit, passe-moi un bout de papier, et il me fait un petit dessin. Il me dit, ça sera pour donner à Blachon pour qu'il nous fasse la couverture. Malheureusement, la maladie l'a emporté avant. Il n'a jamais écrit Marie Pantoufle. Mais j'ai le petit dessin à la maison.
En 1993, Gérard Gauthier, vous faites paraître Jean Moulin, mon ami, de Pierre Meunier. Et en faisant des recherches sur Internet, la presse nationale en a beaucoup parlé de ce livre.
Oui, beaucoup. Alors c'était une très belle aventure.
Alors pardonnez-moi Gérard, je dire simplement que Pierre Meunier était le secrétaire général du Conseil national de la Résistance, dont Jean Moulin était le président.
Voilà, et il est à peu près en 47, il était un de ceux qui a mis sur pied le statut des fonctionnaires. Il était aussi maire d'Arnay-le-Duc. Et il a fait beaucoup de choses pour la région. C'est deux personnes qui... il avait demandé à Maurice Voutet d'être sa plume, parce qu'il voulait quelqu'un qui lui fasse un texte bien, et tout comme Jacques Chirac l'a fait avec Jean-Luc Barré pour ses souvenirs. Et puis, mais ça c'était le départ, mais ils n'avaient pas trop d'idées. Et Michel Fillon, qui était l'inspecteur de l'éducation nationale ici à Saumur, était venu me voir, il était ami avec Pierre Meunier, il m'avait dit est-ce que ça vous intéresserait, Pierre Meunier voudrait écrire ses souvenirs, est-ce que vous accepteriez? Et voilà comment je suis rentré en contact avec Pierre Meunier et on a fait cet ouvrage qui a été un des grands succès de la maison et qui a attiré l'attention sur les éditions d'Armançon, c'est certain.
Il n'y a peut-être pas de collection, en revanche les recueils de nouvelles sont nombreux parce que Gérard Gauthier aime beaucoup les nouvelles.
Alors j'aime les nouvelles bien que ce ne soit pas un genre qui se vende bien, mais il se trouve que j'ai eu la chance de publier quelques recueils qui eux ont plutôt pas mal marché par rapport à d'autres titres. Et un des tout premiers Il y avait eu le livre de Philippe Bertrangereau, mais c'est le premier que, si ma mémoire ne me trompe pas, et c'était la première rencontre avec Michel Rodron, mm-hmm. c'était Leçon de campagne. Michel Rodron est avalonnais d'origine et il avait écrit des nouvelles qui traitaient de la campagne, des relations entre les Parisiens et les campagnards, des histoires de pêche, des histoires de chasse, de cueillette de champignons, etc. Et je lui avais dit, vous savez, moi, les nouvelles, malheureusement, je les trouve bien, mais ça ne se vend pas. Et puis il est revenu à la charge, et puis il a insisté, puis il m'a dit, mais je suis sûr que ça peut marcher. Si ça n'allait pas, je m'arrangerai pour que vous ne perdiez pas d'argent, etc. Et donc j'ai publié Leçon de campagne. Et Leçon de campagne, je le réimprime depuis qu'il est sorti, pratiquement tous les ans.
On est quasiment au terme de notre entretien, Gérard Gauthier. Quel avenir pour les éditions de l'Armançon ?
Alors, bon, moi, j'ai très largement dépassé la date de validation, la date limite. Au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable, disait Romain Gary. Bien sûr que mon grand souci, c'était de savoir comment aller finir cette maison. Est-ce que j'allais fermer ? Parce que moi, j'ai un âge où maintenant, il faut songer à autre chose. Il faut penser qu'on n'est pas éternel.
Transmettre.
J'ai eu des petits problèmes de santé il y a 2 ans. Et je me posais la question, surtout vis-à-vis de Claire Mignard, parce que je savais très bien que, malheureusement, dans notre métier et dans notre région, les postes dans l'édition ne sont pas très nombreux. Et donc, c'était un problème d'avenir pour elle. Et j'étais dans une impasse, je ne savais pas comment faire. Et puis, il s'est trouvé qu'un ami à qui je m'en étais ouvert en disant je vais certainement arrêter parce que ça fait 25 ans, je vois pas comment continuer, moi je suis fatigué et il m'a dit c'est trop bête quand même, on doit pouvoir trouver des solutions. Et j'ai dit mais c'est pas la solution financière qui est en cause, c'est bien sûr que les finances c'était un problème important, surtout qu'on était un peu dans le creux de la vague, mais c'est surtout la pérennité de la maison. Et moi je peux pas continuer éternellement comme ça. Et donc finalement, de fil en aiguille, eh bien on va déboucher sur une passation de petit à petit dans l'année qui viendra.
Et des noms qui circulent.
Avec mais pour l'instant ça va se savoir. Pour l'instant c'est encore rien n'est. Ça sera officiel à la fin de l'année, donc ouais. on aura l'occasion.
Je pense savoir de qui il s'agit. Je ne dis rien.
Très vraisemblablement. Mais non, je pense que ça sera une bonne chose. Moi je resterai encore jusqu'à la fin de l'année, mais à la fin de l'année prochaine, genre en 2013, moi j'aurai 70 ans, donc il sera quand même grand temps de passer les rênes.
Merci Gérard Gauthier de nous avoir accueillis chez vous au siège des éditions de l'Armançon, rue de l'Hôtel de Ville, à Plessis-Soutil. Merci d'avoir évoqué votre parcours professionnel dans le monde passionnant de l'édition. Et nous vous remercions, cher Gérard, chaleureusement d'avoir feuilleté pour Radione et l'émission littéraire de Radione l'album des éditions de l'Armançon, à qui nous souhaitons un heureux anniversaire pour ses 25 ans. Longue vie à cette maison d'édition bourguignonne. Et on rappelle que le catalogue des éditions de l'Armançon est disponible sur le site internet des éditions de l'Armançon. Hein, c'est www.edition-armançon.fr, un site à consulter pour se tenir informé des dernières publications. Hein, Vivre et construire en Morvan, Le Florentin de Beaune, l'album Vincenot, Kader Aziz Aubry de Gérard Calmette, Éclat d'enfance de Michel Lagrange, et puis Vin de Bourgogne, le parcours de la qualité, un essai d'œnologie historique de Louis Latour.
Et pour fêter les 25 ans de la maison, je crois que nous terminerons cette année assez bellement avec l'ouvrage de Frère Michel, Frère Placide et Florence Zito, Zito, une forêt, un monastère. Et ça viendra clore la série, puisque j'avais publié l'Atlas de Cîteaux en 98 et Les Voisins Lumineux de Cîteaux. Donc voilà, ça, je crois que ça fera un beau tiercé.
Une souscription est d'ailleurs actuellement proposée, donc regardez voilà. Chez vos libraires. Cet ouvrage à venir pour le 900e anniversaire de l'arrivée de Bernard de Fontaine à Cîteaux. Merci Gérard.
Merci à vous pour cet accueil.
Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h pour le compte-rendu de la 5e édition de Livres en Vigne qui s'est tenue les 29 et 30 septembre dernier. Nous vous proposerons alors dans Wagon Livre sur Radione d'entendre des interviews de Daniel Picouli, de l'historien Jean-Christophe Petit-Fils, de Armel Job, mais aussi d'auteurs régionaux, notamment Ignacio Catalan et Michel Redron pour leur dernier roman paru
aux éditions de l'Armançon. Et nous ferons aussi connaissance avec les éditions d'Un noir si bleu, créées par Pascal Arnaud. Un de ses auteurs, Laurent Vignat, nous présentera son dernier roman. C'est mercredi prochain, 24 octobre, toujours à bord de l'émission littéraire de votre radio locale, Wagon Livre. Excellente soirée sur Radion, à mercredi prochain. Merci de votre fidélité. Au revoir. Thank you.